Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Son imagination était sans bornes, mais se heurtait parfois aux limites de son temps. Contraint de devoir éluder les réalités de son époque pour plaire à une censure entêtée, il a inventé des mondes pour critiquer le sien. Je vous raconte l'auteur et scénariste pionnier de la science-fiction qui a fait entrer la télévision américaine dans la quatrième dimension, Rod Serling. Nous sommes à New York. En ce mois de mars 1956, Rod Serling ne cesse de battre le pavé de Manhattan entre la 77e rue qui abrite le siège de la chaîne de télévision ABC et la 53e où sont installés les bureaux de la Guild Theatre, une compagnie de théâtre. Il faut dire que son dernier opus donne du fil à retordre aux producteurs. À cette époque, aux côtés de westerns, d'histoires criminelles ou de shows musicaux, la télévision offre surtout des fictions réalisées un peu à la manière de théâtre filmé, joué et diffusé en direct. Rod Serling, 31 ans, est un auteur en vue, mais sa récente création « Noon on Doomsday »,« Midi au jugement dernier », pose quelques problèmes. L'histoire se déroule dans une petite ville du Sud lors du procès d'un assassin. Elle laisse entrevoir les aveuglements d'une communauté dans une haine ordinaire au détriment d'un bouc émissaire. Seulement, il y a peu de temps, Rod Serling a admis auprès d'un journaliste que son nouveau drame s'inspirait d'un fait réel. L'assassinat d'un jeune Afro-Américain tué par deux Blancs dans le Mississippi à l'été 1955. Les meurtriers furent acquittés et l'histoire a déchaîné les passions de l'Amérique. Depuis la publication de l'interview dans le Daily Variety, la chaîne ABC a reçu 15 000 lettres de divers groupes suprémacistes ou bons citoyens qui s'insurgent de cette mise en avant à l'antenne. Pourtant, il n'y a pas de personnage noir dans le scénario. Rod sait le sujet sensible, mais peu importe, ABC ne veut pas aller à l'encontre de son public. Il faut donc modifier l'histoire. Serling enchaîne alors les réunions autour d'un script qui passe entre des dizaines de mains pour être adapté. Et quand le drame est finalement diffusé le 25 avril 1956, le propos est totalement édulcoré. L'histoire ne se passe plus dans le sud profond, mais au nord des États-Unis et au siècle passé. Plus rien ne peut être raccroché à la dérangeante réalité contemporaine. La censure a gagné. Et Rod Serling n'est même pas étonné, lui qui ne connaît que trop bien le monde de la télé. Né en 1924, Rod Serling commence dès ses études à écrire des fictions pour la radio avant de bifurquer en 1950 vers la télévision alors en plein développement. Il y a cette année-là 3 800 000 postes aux États-Unis. Pour l'anecdote, on en recense précisément 3 794 en France. Dans les années suivantes, la télévision, jusque-là cantonnée aux grandes villes, se diffuse dans tout le pays. 64% des foyers sont équipés en 1955, l'année où Rod écrit Patterns, un drame diffusé sur CBS, ovationné par la critique et le public. Dès lors, son téléphone ne cesse de sonner. Sa carrière explose. Mais Serling sait qu'on ne peut pas dire ce que l'on veut à la télévision. Tout ce qui évoque la politique, la critique trop marquée des inégalités sociales et surtout raciales, doit être adouci, gommé, voire carrément supprimé. Ce qui agace le plus Rod Serling, c'est que cette mesure de censure n'a pas de réels fondements moraux, mais uniquement bassement mercantile. Les programmes de télévision sont financés par des sponsors et des publicités. Les annonceurs tout-puissants ont comme seul souci de vendre et donc de ne pas choquer le public, aussi puritain ou raciste soit-il. À une époque où la simple apparition d'un personnage noir à l'écran peut susciter des réprobations, Serling a vite compris qu'il fallait s'adapter. Mais l'affaire de Noon on Doomsday est allée trop loin. Rod en a assez. « Je ne veux plus me battre, dit-il. Je ne veux plus avoir à faire des compromis tout le temps. » Ce qui est par essence le travail d'un auteur de télévision s'il veut mettre à l'écran des thèmes controversés. Car Rod Serling, sans être un beatnik radical, a des idées, des opinions marquées, autant sur le militarisme forcené qu'il envoyait comme chair à canon dans le Pacifique pendant la Deuxième Guerre mondiale, que sur les aberrantes inégalités raciales ou le rigide conservatisme de la société américaine dans laquelle il vit. Alors, puisqu'on l'empêche de dire ce qu'il veut, Rod Serling a une idée. Il va changer de dimension. Pas celle de l'écran, non, non, qui reste circonscrit à quelques dizaines de centimètres de large, mais celle de sa propre imagination. il étend le domaine de son inventivité pour basculer dans la science-fiction. Le 2 octobre 1959 à 22h, quelques 18 millions d'Américains découvrent la voix de Rod Serling dans le générique qui introduit le premier épisode d'un nouveau programme qu'il conçoit et produit lui-même. The Twilight Zone, la zone du crépuscule, tel est le nom de ce rendez-vous hebdomadaire qui sera diffusé en France en 1965, puis dans les années 80 sous le titre La quatrième dimension. Une série sans lien entre les épisodes et sans personnages récurrents, si ce n'est Rod lui-même, dont la voix puis la personne sont utilisées en introduction et en conclusion.
You walk into this room at your own risk, because it leads to the future. Not a future that will be, but one that might be. This is not a new world. It is simply an extension of what began in the old one.
Chaque histoire est donc indépendante et développe des aspects étranges, surnaturels ou fantastiques qu'un twist final vient questionner ou éclairer. Les situations sont en général ancrées dans l'époque contemporaine, même si quelques sauts dans le temps ou dans l'espace intersidéral ont lieu. Mais le monde mis en récit par Serling n'existe pas et c'est pour cela qu'il peut y dire ce qu'il veut. En jouant sur l'invraisemblable, il rend encore plus efficace son discours, souvent teinté de critiques de la société américaine. Quand une petite ville ravie de pendre un condamné se retrouve plongée dans une nuit perpétuelle et se fait faire la morale par un révérend noir, on ne peut s'empêcher de penser à Martin Luther King et sa lutte pour les droits civiques. Quand tout un voisinage apeuré par l'arrivée d'extraterrestres vautre dans la suspicion généralisée, on songe à l'anticommunisme sournois qui anime l'Amérique en pleine guerre froide. Quand une jeune fille refuse l'opération qui doit la rendre semblable à toutes les autres, dans un monde où chacun a la même apparence physique, on comprend la critique du conformisme, de la tant vantée American Way of Life. Tous les épisodes, il y en aura 156 en tout, ne portent pas forcément de message. Beaucoup sont juste là pour divertir le public. Mais Rod Serling a trouvé pour la science-fiction le moyen de faire passer des idées. Au-delà de laisser libre cours à son imagination féconde, qui plus est, dans une grande qualité esthétique. Mais les temps changent et les goûts aussi. Et après 5 saisons, la série est déprogrammée en 1964. Rod Serling écrit d'autres scénarios, crée un nouveau programme fantastique, Night Gallery, puis prend finalement ses distances avant de décéder en 1975. Les dernières années, l'homme aux 6 Emmy Awards donnait des cours d'écriture, mais ne travaillait plus pour la télévision, si ce n'est en apparaissant dans des réclames pour des cigarettes, des voitures ou du dentifrice, comme s'il s'était résigné, lui qui vilipendait ses incessantes coupures, obstacle à l'imagination, à la victoire de la publicité sur les idées.